Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous franchissons le mur du son. Nous jouons avec vos oreilles, avec votre écoute. Et puisque nous parlons du son cette semaine et de son histoire aujourd'hui, on commence avec une question. Son ce son sans sens ou son ce son sensé? Bonjour Jean Lebrun.
Qui sont, Adèle, ces serpents qui sifflent au-dessus de vos têtes?
Mais alors, cette phrase-là est davantage connue. Savez-vous de qui est la phrase que j'ai dit?
Non, pas du tout.
Son ce son sans sens ou son ce son sensé?
Non, mais moi j'ai un handicap par rapport à vous. Un jour, vous m'avez croisé dans les couloirs de la maison de la radio, vous m'avez dit « Tiens, j'ai retrouvé dans mes archives le double de la lettre que je vous avais envoyée pour devenir stagiaire dans une de vos émissions. »
C'était en 2005.
Voilà, et je n'ai pas répondu à
cette
lettre.
Jamais. Et pourtant, ici, me voilà, donc je peux dire que ce n'est pas grâce à vous.
Non, non, et moi j'ai beaucoup de regrets, donc j'ai manqué de flair ce jour-là.
Vous étiez débordé, mais on s'était rencontré quand même lors d'une de vos émissions de travaux publics que vous enregistriez en public au café El Sour. Et j'étais toute jeune étudiante et vous étiez venu me parler pour me proposer de prendre la parole. J'avais dit non. Donc je suis responsable aussi.
Vous n'avez pas dit de qui était cette phrase?
Eh bien, écoutez-le en version originale et j'espère que vous reconnaîtrez sa voix.
J'avais une formule qui vaut ce qu'elle vaut, c'était son, ce son sans sens, son, ce son sensé. Est-ce que ce sont des sons qui n'ont pas de sens ou est-ce que ce sont des sons qui ont un sens? Je pense que tout son a un sens, mais le sens qu'il a vient de son organisation, de son rapport avec le son voisin, avec le son avec lequel on peut le faire cohabiter, auquel on peut le conjoindre. Vous savez, il y a un mot, je ne sais pas, vous connaissez mon immense modestie, je dirais qu'il est ou de Victor Hugo ou de moi. Je ne sais plus. La forme, c'est le fond amené à la surface.
Alors, je connais la citation, je ne reconnais pas le locuteur, mais j'ai un autre handicap par rapport à vous. Moi, jamais je ne me serais aventuré, comme vous l'avez fait à plusieurs reprises, Adèle, en recevant des gens masqués dont vous ne saviez pas qui ils étaient. Pierre Dumayet avait fait ça autrefois à la télévision. Il y avait comme un mur qui le séparait de la personne qui lui parlait. Et il devait, au bout d'un moment, ayant épuisé toutes les questions, la reconnaître.
C'est la prise de risque qui
est
présente à la radio.
Bah,
parce que je vous mets
forfait.
Dans la position de celui à qui l'on pose les devinettes, pour une fois, Alain Trutat.
Alain Trutat. Ah.
Qui est Alain Trutat?
Un maître pour nous autres. Alain Trutat était de formation réalisateur. Il avait fait beaucoup de dramatique. C'était aussi, surtout, peut-être un homme d'amitié. Et il avait un réseau extraordinaire de claudéliens. D'abord, ça a dû commencer avec Claudel lui-même, de très grands comédiens, de philosophes. Et c'était comme le grand sachem de France Culture. Et non seulement il a veillé à créer des émissions originales.
Mais il a créé France Culture.
Une réalisation d'Alain Trutat, ça se reconnaît. Il avait beaucoup de bienveillance pour les gens qui avaient des styles différents de lui et considérait pas la radio très tôt que je faisais comme absolument déshonorante. Et puis, il avait cette autre qualité qui distingue un homme de radio, il constituait des archives. Son but, c'était de créer les archives du présent, de reconnaître les archives du passé, de créer des archives pour le futur. Vous savez, Lévinas, écouter, transmettre, célébrer. Et d'ailleurs, il est resté longtemps présent après sa retraite, parce qu'une pièce entière était pleine de cartons d'Alain Trutat, que nous considérions avec beaucoup de respect, et qu'il a mis beaucoup de temps à enlever et à installer chez lui. Respect, Trutat.
Le but de la radio, c'est de créer des archives pour le futur?
Le but de la radio, c'est de respecter les archives du passé. Pas à la façon de notre président sortant-sorti, qui disait que nous avions là un gisement de produits à valoriser.
Vous parlez de Mathieu Gallet?
Peut-être. On est dans un interrègne, on peut en profiter, on n'a plus besoin de respecter toutes les limites que d'habitude on s'impose quand on est sous la présidence de quelqu'un que l'on doit considérer comme légitime puisqu'il a été nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc les archives, ce ne sont pas des produits à valoriser, ce sont des découvertes à faire. Alors là, je parle des archives du passé. Parce que on nous dit, le président sortant, nous disait « on fait des partenariats avec l'INA, c'est formidable, on va recycler des pépites qui recèlent les éclats du passé ». Oui, mais à la réflexion, quand on regarde, ce sont toujours les mêmes archives du passé qu'on passe. Ce sont les archives qu'on attend, dont on a la mémoire et dont on veut entendre de nouveau le son. Puis à force de les entendre, le son, la nouveauté, l'altérité s'usent. Donc les archives du passé, il faut les inventer, il faut les découvrir. Et souvent dans les recoins, vous savez, comme quand vous êtes aux archives municipales ou aux archives nationales et que vous dépliez une liasse, vous enlevez le lien et puis tout d'un coup il y a des figures du passé qui vous sautent au visage et vous surprennent. Alors il faut constituer les archives du futur après avoir respecté les archives du passé. Mais les archives du futur, comment est-ce qu'on les constitue aujourd'hui? Ça doit être un de nos enjeux. Comment on va faire pour, dans 20 ans, prendre plaisir aux nuits de France Culture? Est-ce qu'on aura Habermas en longueur? Est-ce qu'on aura Clément Rosset en longueur? On l'a, parce que Raphaël Antoven a dû l'interroger beaucoup de fois. Est-ce qu'on aura Darius Shayegan, le grand philosophe iranien qui vient de mourir en longueur? Est-ce qu'on aura le grand sinologue Jacques Gernet qui vient de disparaître dans la plus grande indifférence en longueur? Il faut constituer le patrimoine de demain, c'est une de nos missions.
On a en tout cas une archive de Jean Lebrun, par Jean Lebrun.
Et aujourd'hui, 21 janvier, le soleil se lève à 7h36, c'est-à-dire en 34 minutes. Il aura gelé des Ardennes aux Alpes, mais la pluie aujourd'hui sera circonscrite à l'est. Encore que la matinée restera grise et pluvieuse sur les bords de la Méditerranée. Enfin, qu'importe, peu à peu, les éclaircies gagneront, notamment grâce au Mistral dans le sud. Les températures rafraîchissent quelque peu, 6 degrés à Cherbourg cet après-midi, 5 degrés à Boulogne, 8 degrés à Bordeaux et 13 degrés à Nice. Le 21 janvier, Sainte-Agnès et Ignace, c'est la date anniversaire de l'exécution de Louis XVI. Mais aussi, c'est un fait qui est moins célébré, en tout cas par aucune messe, c'est l'anniversaire de la mort de Lénine. Alors laissons à chacun le soin d'associer à sa façon le souvenir de ces deux disparitions et refermons notre almanach.
Vous n'avez pas toujours produit et animé la marche de l'histoire sur France Inter, Jean Lebrun, ça c'est depuis février 2011. Les trois années qui ont précédé l'année 2011, vous étiez conseiller au programme à la direction de France Culture. Avant cela, vous avez animé Travaux publics sur France Culture de 2003 à 2008. Avant cela, Pot-au-feu. Et avant cela encore, Culture Matin, dont on a entendu un extrait. Culture Matin qui était une matinale que, je tiens à le préciser, pardonnez-moi de le faire peut-être, qui était enregistrée la veille au soir, ce qui aujourd'hui paraît absolument inconcevable.
Ah oui, alors ça paraît tout à fait farfelu, mais j'en étais pas le producteur. Hein. Les producteurs, c'était Jacques Fayet et Claude Dupont. Et c'est eux qui décidaient de ce rythme. Et nous autres, les jeunes qui les suivaient, qui avons été leurs disciples, je parlais de Laure Adler, de Laurence Bloch et de Ma Pomme, on obtempérait. Ça avait du bon, vous savez.
Laurence Bloch, actuellement directrice de France Inter.
Ça avait du bon parce que ça permettait d'abord aux producteurs de beaucoup voyager. Ils pouvaient s'absenter pendant de longues semaines, le producteur remplaçant les suppléants. Et il y avait toujours une très très forte distance par rapport au moment. Mais là, ce que vous avez passé, c'est Culture Matin, j'imagine. Mm-hmm. Et vous avez vu qu'un producteur doit savoir tout faire. Moi, j'ai toujours été étonné par le fait que les bulletins de météo de France Culture étaient extrêmement imprécis. Alors, je me substituais...
En effet, une minute trente de météo, de précision météorologique.
Au bulletin manquant. À d'autres reprises, j'avais remarqué que nous manquions de culture physique. Alors maintenant, je vois qu'il y a une spécialité, un rayon dédié à la culture physique, qu'on peut podcaster toutes sortes d'émissions gymnastiques et sportives. Alors nous faisions souvent nous rééditions l'émission de culture physique de France Inter ou du Poste parisien des lendemains de la guerre. Et c'est intéressant le 21 janvier Lénine parce que il y a une histoire que m'a raconté un jour Imre Kertész, l'écrivain hongrois. Lénine était vieux sur son fauteuil roulant et il était gêné par le chant des rossignols. Il lançait des cailloux contre les rossignols, se levait avec difficulté de son fauteuil et puis aucun de ses cailloux n'arrivait à atteindre les rossignols et finalement il renonçait. Je crois que le métier de producteur, ça consiste, chaque fois qu'il y a des Lénines qui menacent, des pensées uniques qui occupent tout l'espace, à chanter au-dessus d'elles, à fronder au-dessus d'elles.
Producteur, c'est celui qui anime une émission, on appelle ça dans le jargon radiophonique de Radio France, producteur.
Oui, c'est très différent du producteur de télévision. À la télévision, quand vous visitez le site d'en face, je parle de la télévision dite publique, vous avez un septième ciel, une stratosphère qu'on n'atteint que difficilement, où siègent les directeurs. Il y a les petites mains, les Nimelungen, les ilotes en dessous, et... Ce sont des producteurs qui viennent dialoguer directement avec la direction pour leur vendre leur programme. Et c'est ainsi que, je ne sais pas, Monsieur Le Pers gagnait, paraît-il, et il était sur le service public. Question pour un champion, question pour un super champion, 40 000 euros par mois.
Comme
mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là, Adèle. Nous sommes des producteurs artisans, c'est-à-dire que nous sommes le long d'une rue. Imaginez une rue commerçante avec des enseignes. Toute la rue fonctionne au même rythme. Il y a chacun dans sa chacunière, chacun avec sa spécialité. Vous êtes la philosophe, mais vous débordez un peu. Moi, je suis maintenant à France Inter, l'historien, mais je déborde un peu. Mais nous partageons le même mode de vie, le même mode de travail avec nos compagnons, avec une équipe. Et nous avons le souci de l'exactitude, de la précision. C'est ça qui nous meut. Et plus on a le souci de l'exactitude, moins on a de certitude. Et puis nous sommes dans une farouche volonté insulaire, j'allais dire, d'indépendance. Le producteur dit Kathleen Evin. Productrice à France Inter, c'est celui qui a des problèmes avec l'autorité. Et le producteur, c'est un artisan. Nous sommes des artisans.
Quelle place occupe le son dans votre pratique et votre amour de la radio ?
C'est l'aléatoire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme le regard dans le langage des sourds. Vous savez, dans le langage des signes, je pense au monde monastique. Que j'aime bien, qui est pour moi le monde idéal. On y pratiquait le langage des signes. Passe-moi le sel, enfin, on utilisait peu le sel, passe-moi le pain, regarde la silhouette du frère, là. Parce que quand on utilise le langage des signes, qu'on se prive d'un sens, on a les autres sens qui sont aiguisés. Et alors, le sourd ou celui qui utilise le langage des signes volontairement, quand il est entendant, il développe son champ visuel, son sens de l'imitation, son sens de l'observation. Alors, nous nous privons de quelque chose, la vue, l'image, nous ne paraissons pas, c'est d'ailleurs plutôt assez facile pour nous, c'est plus difficile pour le récepteur, qui doit donc avoir l'intelligence aiguisée, les autres sens aiguisés. Et donc il va être beaucoup plus sensible au son. Et nous allons produire des sons sans le vouloir, ou des sons vont venir perturber ce qu'on dit et avoir plus d'importance que la parole qu'on énonce. C'est, si vous voulez, la même chose que pour un avocat dans une plaidoirie. On prend pas de notes pendant une plaidoirie. Ça ne sert à rien, parce que quand on relit les notes qu'on a prises, on voit, on observe que ce qui est le plus important, sans doute, n'est pas dans la transcription qu'on a faite. Le plus important dans une plaidoirie, c'est un silo qui tombe, un juré qui bâille. C'est de ça qu'on se souvient. Enfin, c'est ça qui fait le plus écho. Et c'est exactement ça dans une émission de radio qui est le plus important, peut-être. Et dont les auditeurs se souviennent. Bah, j'ai comme ça une anecdote étonnant voyageur, Saint-Malo. Alors, on sortait avec des sacs à dos émetteurs et un micro sur la plage au petit matin. C'était culture matin. Un couple est là en train de faire l'amour. Alors, on les gêne. Et puis finalement, ils se rhabillent et puis on parle avec eux. C'est quand même étonnant comme, comme scène. Une auditrice m'écrit, elle n'a pas du tout entendu ça. Elle
a parce que vous êtes allé enregistrer le bruit des deux personnes qui faisaient l'amour.
Bah non, on s'est approché à petits pas, à pas compter. Et puis au bout d'un moment, ils ont vu toute une équipe qui était autour d'eux, le technicien, mon interlocuteur.
Donc vous l'avez dit à l'antenne.
Je l'ai dit à l'antenne, puis j'ai commencé, enfin de façon pudique bien sûr, et j'ai commencé à parler avec eux. C'était donc ça le plus important. C'était cette parole qui s'échangeait sur ce moment un peu impromptu, inattendu. L'auditrice qui m'a écrit, et je me souviens très bien de cette lettre qui était assez bouleversante. « Ah, vous nous avez fait descendre sur la plage et j'ai entendu la mer. Et maintenant, je suis cloué chez moi, c'est la sclérose en plaques. » Cette dame-là, elle n'avait entendu que la mer. Et la mer devait être là, en arrière-fond. Et moi, je ne prêtais aucune attention à la mer, parce que j'étais évidemment les yeux obnubilés par le couple qui s'était dévoilé devant moi.
Donc le son, c'est l'imprévu, c'est ce qui va marquer la mémoire de l'auditeur. Il ne faudrait pas non plus passer complètement sous silence, disons, le fond, tout le travail que vous accomplissez pour la marge de l'histoire, que j'essaie d'accomplir dans cette émission, qui est un travail où on transmet aussi quelque chose, du contenu. Les auditeurs écoutent pour le son, mais aussi pour ce qu'on leur dit, pas seulement comment on leur dit.
Alors quand j'ai fini Travaux publics, beaucoup de lettres sont arrivées, beaucoup de commentaires sur notre blog. Bravo monsieur, vous faites des variétés intellectuelles. Monsieur, c'est l'opposé de la radio savante. Monsieur, on vous écoute depuis des années, on ne sait pas pourquoi vous êtes irritant, mais on sait que vous l'êtes. Monsieur, on ne retient jamais rien de toutes vos émissions. Ouais, mais en même temps, c'était des émissions préparées, c'était émissions savantes, avec des fiches, de l'écriture.
Pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas cette émission Travaux publics, comment vous la présentez?
Bon, c'était un polac organisé, quoi. Ouais, un droit de réponse avec un peu plus d'ordre.
Vous étiez en public?
Oui, on était en public.
Dans des cafés?
On était dans des lieux publics. C'était des cafés, des domiciles. Il nous est arrivé de circuler pendant une semaine en camping-car et on s'installait dans le salon de nos invités. C'était en France, c'était à l'étranger. C'était des petites républiques de la parole provisoire. Cette émission, c'était dans mon esprit une étape de la vie démocratique qui s'emboîtait dans d'autres, évidemment, plus importantes. Et l'idée, c'était que les gens prennent la parole, mais pas n'importe comment. C'est ça la différence peut-être avec Polak, parce que Polak est profondément anarchiste. Moi, je suis profondément démocrate et je crois absolument à l'ordre de la représentation. Donc, je posais des balises. Alors, les balises, c'est saluer les gens, les remercier d'être venus. Autrement, la France irait à volo, hein, si vous n'étiez pas là. Repérer les points d'appui dans une émission. C'est les retraités, par exemple. Enfin, les gens qui pourront vous sauver en cas de difficulté. Polak cherchait exactement l'inverse. Lui, il cherchait l'explosion, l'affrontement. Moi, je cherchais à le créer en le jugulant. Vous voyez, la digue et la vague en même temps. Et puis, j'avais une technique. Je ne sais pas si elle est ridicule, mais je la vois pratiquée par un certain nombre de serveurs dans les restaurants. Je me mettais à genoux pour tendre le micro. Vous savez, comme certains serveurs prennent leur calepin et puis notent à hauteur de regard, à hauteur de femme, à hauteur d'homme. Et puis, je repérais aussi les récifs d'hostilité. Et la question, c'était de ne pas leur donner trop de place. Je me souviens d'une émission avec Alain Juppé dans un café à Bordeaux. Les renseignements généraux m'avaient téléphoné, ça va pas être possible. Vous savez, monsieur le maire n'a aucunement l'intention de venir dans ces conditions. Et en effet, il y avait un groupe de virago du MLF d'il y a trois lustres qui voulaient absolument interrompre l'émission. Et ça n'a pas manqué. Elles ont fini par chanter l'international et j'ai pas pu, après les avoir contournés pendant toute l'émission, éviter ce que je cherchais toujours à conjurer, l'affrontement. L'affrontement violent, non seulement l'injure, mais l'expression d'une haine, le désir assez bien exprimé, inconscient, pourtant de la disparition de l'autre.
Vous essayez de conjurer les insultes et l'affrontement. Vous citez Michel Polak. Voici un extrait de droit de réponse quand Michel Polak reçoit le professeur Choron en public. Écoutez la réaction du professeur Choron.
Il y aurait quand même un coup terrible.
Est-ce que je peux répondre à ces
à ses défections.
Bon, allez, Choron, un mot.
Bon, je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire?
Ben, faut que
ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, ils font
des trous du cul. Des cons.
Merci, Choron.
Bon,
allez.
Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. Polak, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est des mots de ma mère, c'est des mots de ma grand-mère, c'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi
bon,
du mot.
Allez, pas d'un.
Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ce
ça
sont,
suffit, Choron.
Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
Merci, Choron.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et non pas droit de réponse de Michel Polak sur TF1, mais on diffuse un extrait, puisque mon invité Jean Lebrun aujourd'hui l'a bien dit, la radio, c'est rendre les archives accessibles au présent et surtout au futur. Vous avez fait de nombreuses années d'émissions en public. Jean
oui,
Lebrun,
mais moi j'ai toujours évité ça.
Ben oui, mais on prend ce risque. Bon, en l'occurrence, là, c'est professeur Choron. Donc mais... forcément, on sait qu'on va sans doute déraper. Mais il y a d'autres archives où on voit où c'est le public lui-même qui dérape. On prend ce risque-là. C'est une prise de risque supplémentaire que d'être en public.
Il y a eu un moment, 2007, où la une de Time, l'homme de l'année, la femme de l'année, c'était écrit en gros « You, vous », en majuscule. Ces dernières années, RMC organise un concours, devenez la nouvelle grande gueule. On fait un casting. Mmh. Alors, on devine quelles qualités il faut pour être une grande gueule. Il faut avoir tous les défauts de Choron. Et moi, je suis un enfant de mai 68 et j'aime pas ça. Alors, je vous explique. J'ai participé une fois à Droit de Réponse. Moi, j'ai pratiquement osé rien dire. J'étais comme tétanisé. J'ai eu l'impression d'être dans les assemblées générales de mai 1968. Et alors, dans les assemblées générales de mai 1968, il y avait des Fouquier-Tinville d'amphithéâtre qui décidaient de tout, qui impressionnaient tout le monde et qui surimposaient un vocabulaire marxiste-léniniste incompréhensible au commun des mortels et qui nous laissaient tous quoi. Et de mai 68, moi j'ai voulu garder un autre enseignement, enfin celui classique, la prise de la parole, comme on a pris la Bastille, les conversations sur le trottoir, les gens qui se prenaient par le bouton de la veste et qui discutaient au milieu des décharges de déchets, parce qu'on se souvient pas que les éboueurs aussi étaient en grève, la cour de la Sorbonne avec les gens de la bourgeoisie qui souvent, en compagnie de leurs chauffeurs, venaient des beaux quartiers pour discuter avec les étudiants, la confrontation de point de vue, des destins qui n'étaient pas amenés à se rencontrer et qui se froissent, peuvent se retrouver, se séparer irréparablement tout aussi bien. Et la démocratie, pour moi, passe par ça et pas du tout par ce spectacle d'ego dont on a entendu un écho.
Mais ça veut dire que pour vous, le son est secondaire quand même. Ce qui est important, c'est pas ce qui se dit, mais c'est ce qui se passe.
Ce qui est important, c'est ce qui s'improvise.
C'est ça. Peu importe que... Je veux dire, la qualité du son est secondaire ou pas ?
Non, non, ni la qualité de la parole, ni la qualité du son ne sont secondaires. Il y avait un grand homme du journalisme pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, Jean Marin, qui faisait près de 2 mètres, qui était président de l'AFP, qui venait de temps en temps à Culture Matin. Il était tellement respecté des journalistes qu'il pouvait organiser à l'AFP, dont il était le président, des réunions dans le grand hall, et il parlait depuis un haut-parleur. C'était une grande voix de Radio Londres. Ici, Jean Marin. Et un jour, il m'a dit ceci qui me paraît définir parfaitement notre vie à la radio. Lebrun, c'est préparé, donc on peut improviser. Ce qui est à éviter absolument, c'est la radio écrite de A à Z. Parce que dans ce cas-là, vous faites ce que faisait Henri de Monterland. Vous écrivez les questions, c'était lui qui les écrivait. Vous écrivez les réponses, c'est lui qui les formulait. Et on est en train d'ailleurs de revenir insensiblement, c'est étrange, à la radio écrite. Parce que quand vous faites une matinale, maintenant le matin, vous avez des logiciels qui calculent en secondes le nombre de mots que vous prononcez. Et vous savez que vous ne devez pas dépasser telle limite. Et que si vous dépassez telle limite, vous avez complètement compromis l'engrenage, la machine. Il y a de plus en plus de chroniques. Ces chroniques sont écrites. Vous pensez que les humoristes, ils ont tout écrit de A à Z. Étrangement, on est en train de revenir à la radio écrite des années 30 et des années du lendemain de la guerre, où c'était un speaker qui lisait les nouvelles à la place des journalistes. Ça a été une libération quand, dans un journal parlé, ce sont les journalistes, ce furent les journalistes qui, avec leur voix, avec leurs hésitations, avec leur improvisation, avec leurs imperfections, se sont engagés face à l'auditeur personnellement.
Le problème de la radio écrite, c'est l'uniformisation du ton.
Mais il n'y a pas seulement le ton, il y a la diction, il y a aussi le format. Alors vous avez toutes sortes de formats obligés qui sont autant de petits cercueils de la pensée. Je pense à ce truc épouvantable qui s'est répandu jusqu'à France Culture, l'enrobé.
Qu'est-ce que c'est de l'enrobé ?
Bah oui, parce qu'il faut expliquer à l'homme de la rue qui
enfin, moi, en l'occurrence.
Ce que c'est. Bah, vous n'avez pas fait suffisamment de rédaction, vous n'avez pas fait d'école de journalisme.
Bah, je vous le confirme, non, pas du tout.
Ouais, vous étiez à Normal Sup, Adèle. Et dans les écoles de journalisme, on apprend la fabrication de l'enrobé. Alors, vous savez, les mots désignent souvent exactement le contraire de ce qu'ils veulent nommer. Donc, l'enrobé, ça consiste à créer un feuilleté où vous avez, ben, je ne sais pas moi, une manifestante de la Manif pour tous. Alors, vous prenez le point le plus extrême d'incandescence auquel elle est parvenue, vous ajoutez feuilletage supplémentaire, le commentaire du journaliste sur le ton que vous critiquez, avec la diction uniformisée dont vous parlez. Vous rajoutez une deuxième couche avec un autre manifestant, puis le commentaire du journaliste. Et ça fait, c'est étrange pour un reportage qui se veut sans doute anticlérical, l'équivalent du sermon d'un membre du bas clergé breton dans une chaire.
Ce qui fait qu'on n'écoute plus vraiment d'ailleurs ce qui est
dit. On n'entend plus les paroles. Est-ce que vous avez déjà entendu un Picard en France, à la radio, sauf en temps d'inondation ? Même le pape est enrobé maintenant, quand Benoît XVI a abdiqué. Nous avons cherché le prononcé de son abdication dans une assemblée de cardinaux. Il a parlé en latin. Ce qui était intéressant, c'était de l'entendre parler en latin, puisque les cardinaux eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'il disait, ne comprenaient plus. Le latin. Alors il se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, il était en train d'abdiquer. Eh ben, vous n'avez nulle part, même pas à Radio Vatican, l'abdication en continu du pape Benoît XVI. Vous avez quatre mots de latin, le commentaire d'un journaliste pieux qui ne sait à quel dieu se vouer, et puis de nouveau trois mots de latin. Donc ce sont ces formes qui sont extrêmement dangereuses et qui provoquent l'uniformisation et l'ennui.
Reste à savoir comment ces formes-là, le ton, les prises de parole à la radio évoluent au cours du temps. Et là, je m'adresse à l'historien que vous êtes. Et je vous propose d'écouter un montage de différents journaux parlés. C'est comme ça qu'on les présentait, les bulletins d'information le matin, de 1959 à 2018. On va entendre successivement quelques secondes de l'annonce d'un journal de 1959, puis de 1968, de 1978, de 1989, de 1997, de 2009 et de 2018. Écoutez comment le ton évolue au fil des décennies.
Ici Paris, radiodiffusion, télévision française, programme régional France 2. Voici le journal parlé, édition complète du matin, présenté par Jean-Gabriel Grand.
Troisième journée algérienne du chef de l'État. Le président de Gaulle, qui a fait étape hier soir, vous le savez, dans le Constantinois, a quitté ce matin Bordj-Bouareridj et doit visiter dans la journée le secteur du barrage de la frontière tunisienne.
Roland Mel, Interactualité.
Dans ce grand mouvement qui brasse l'université et qui sera marqué la semaine prochaine par des états généraux des étudiants et professeurs de Paris et de province, dans cette grande remise en question de structures que tout le monde s'accorde à reconnaître comme mal adaptées au monde moderne, un problème domine les autres, tout au moins dans l'immédiat, pour bon nombre d'étudiants, celui des examens.
Vous écoutez France Inter, le journal Alain Bédouet.
Salaire, l'escalade. Cette fois, Raymond Barre menace directement les patrons. En cas de flambée des feuilles de paie, le gouvernement limitera le crédit aux entreprises et relancera la concurrence.
Le journal Denis Lemarié.
Bonjour. Pas de pitié pour Salman Rushdie, l'ayatollah Khomeini renouvelle son appel au meurtre contre l'écrivain britannique. Plus que jamais, Khomeini garde le pouvoir à Téhéran, nous dira Ralph Pinto. Les 12 ministres des Affaires étrangères de la CE se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour envisager une riposte.
Le journal Fabrice Lequintrec.
Bonjour. 10 000 voyageurs de la SNCF ont été bloqués hier par la neige dans le sud-est de la France. 350 d'entre eux ont même passé leur nuit en rase campagne à bord de leur TGV. Dans l'ensemble, cependant, l'hébergement a pu être assuré. Le froid a encore tué en France et en Europe et il va sévir encore pendant plusieurs jours.
Le journal de Fabrice Drouel. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous. Le geste de Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur, propose aux étudiants dont les examens seront reportés en juillet un mois de bourse supplémentaire et un allongement du bail en résidence universitaire.
Le journal Marc Fauvel. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, la bataille de l'ours relancée dans les Pyrénées. Nicolas Hulot veut réintroduire 2 plantigrades supplémentaires à l'automne prochain. Les écologistes en font leur miel, mais les éleveurs sont vent debout, vous l'entendrez.
Cette histoire des journaux parlés de 1959 à 2018, vous l'écoutez sur France Culture, les chemins de la philosophie. Alors, c'est assez intéressant, Jean Lebrun, quand même, de voir, on peut l'analyser précisément, hein, le changement de la diction, du ton. On voit que le jingle musical apparaît à partir de 78, pas avant, ce qui renseigne aussi sur la conception que l'on se fait de la radio. Que bon, entre 2009 et 2018 sur France Inter, c'est la même personne qui parle, c'est Nicolas Demorand, mais le ton change également. Mais que malgré la standardisation du ton, on entend des nuances, des dictions. Fabrice Drouel ne parle pas de la même façon que le journaliste précédent. Il y a une forme de singularité qui s'exprime dans chaque ton, y compris quand celui-ci est ultra standardisé.
Enfin, il y a un point commun que vous n'avez pas noté entre toutes ces archives, c'est que ça commence toujours le journal par le nom.
Du journaliste.
Du journaliste. Ouais. Et ce nom s'impose, c'est une présence, c'est une voix dont on pense ce qu'on veut, mais à laquelle on est rattaché par une sorte de fil qu'on n'arrive pas à rompre. Il faudrait remonter un petit peu plus avant dans le temps et faire entendre aussi l'époque où c'était des speakers qui lisaient les dépêches ou bien les articles des journaux et où la personnalité du journalisme n'était aucunement mise en avant. Alors le ton du speaker était encore autre, plus emphatique, parce que le speaker n'avait pas de nom, il fallait bien qu'il se fasse une place quand même, même si on ne le connaissait pas avec son nom, on devait le considérer comme une personne extraordinaire, alors il fallait qu'il le fasse sentir. Il y a un écrivain de Saint-Pierre et Miquelon qui a fait l'équivalent de À la recherche du temps perdu pour Saint-Pierre et Miquelon, et qui fait un portrait du speaker anonyme de la radio de Saint-Pierre et Miquelon. Et lui, enfant, il voit cet individu qui sort de la radio, qui redevient une personne ordinaire, qui fait ses courses, qui regagne son domicile, mais il ne peut pas s'empêcher de le considérer comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui descend d'une capsule. Alors, il y a le passage du speaker et du journaliste. Moi, ce qui me frappe aussi dans le rythme des informations, outre l'accélération, c'est l'alarmisme grandissant, vous voyez, au temps du général qui visitait la France. C'était, d'une certaine manière, j'ose faire le rapprochement, une France giraldusienne, vous savez, comme dans les pièces de Giraudoux, ou le contrôleur des contributions... les contributions étant éternelles, percevaient les taxes, ou l'inspecteur du gaz observait les tuyaux pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et à partir donc d'Alain Bédouel, il me semble-t-il, dans les archives qu'on a entendues, le tempo change et le tocsin sonne. Les étudiants, l'ours, terrible, l'ours, ça va déchirer les vallées, blesser les familles.
Mais vous l'expliquez comment, cette uniformisation du ton dans l'histoire de la radio qui est quand même pas si vieille, est-ce que c'est un mouvement général? Parce que les tons, les accents ont toujours évolué au fil des décennies. Quand on écoute les films, c'est pareil. Les archives, qui ne sont pas forcément les archives radiophoniques, c'est pareil. Comment expliquer qu'aujourd'hui, de la part dans le milieu des journalistes, dans le milieu de la radio, de la télé, il y a une espèce de ton unique qui se soit imposé.
Mais est-ce que c'est pas partout le règne des procédures ? C'est la même chose dans
pas plus qu'il y a 50 ans.
C'est la même chose dans tous les secteurs. Domine les procédures.
Oui, bien plus qu'il y a 50 ans, encore une fois.
Si, beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Ben, vous vous rendez pas compte, Adèle, parce que votre expérience est trop courte. Mais la part d'initiative personnelle et donc d'originalité, c'est extrêmement réduite dans tous les métiers. Un serveur de restaurant, c'est quelqu'un qui apprend à l'école hôtelière à dire bonne continuation et bonne dégustation.
Oui, il y avait déjà un protocole à suivre quand on faisait une école d'hôtellerie dans les années 50.
Bien moindre, avec des possibilités de vocabulaire beaucoup plus larges. Quand soudain dans un TGV, c'est bien de parler de la SNCF aujourd'hui, vous n'avez pas la lecture obligée par le chef d'escale du code qui lui a été imposé et que vous entendez, comme ça m'est arrivé, à ma plus grande surprise il y a quelques semaines, une contrôleuse qui se met à chanter à l'arrêt. Ça vous fait exactement le même effet que le rossignol sur Lénine. Vous êtes absolument étonné. Et je suis sûr que s'il y a un cadre de la SNCF dans le train, il va peut-être lui faire des remontrances. Vous voyez, il y a une nouvelle de Simon Leys assez étonnante à laquelle je pensais dans un café à Nontron, en Dordogne, où j'étais il y a 15 jours. J'essayais de faire éteindre la radio dans le restaurant. La radio qui vous déversait 10 minutes sur 30, des publicités pour Carrefour, citons Carrefour, et les supermarchés du coin. Impossible de faire arrêter la radio. Et il y a une nouvelle de Simon Leys qui dit « Il y a un truc pour faire arrêter la radio ». Alors vous avez toujours chansonnette, musac, cours de la bourse, annonce publicitaire. Si vous mettez un quintet avec clarinette de Mozart, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va couper le poste. C'est un règne général de la procédure dont on n'ose plus sortir. S'il y a eu un tel étonnement autour du geste du colonel Beltram, enfin, je fais un rapprochement peut-être inattendu ou un pas de côté, c'est qu'il est sorti de la procédure.
Personne, ah bah pour le coup, oui, brillamment, héroïquement, il a donné sa vie.
Personne ne lui avait demandé de sortir de la procédure. Personne ne lui aurait fait.
Oui, mais on peut sortir de la procédure sans forcément se sacrifier.
De la procédure.
Ce que je veux dire, c'est que cette dénonciation d'une forme d'uniformisation, elle est très ancienne. Les films de Tati ne parlent que de ça, de se moquer justement de ce ton uniforme, et c'était il y a quand même plusieurs décennies. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la radio ? Ce que je voudrais dire, c'est est-ce qu'on pourrait aussi faire prendre conscience que la radio est le lieu où peuvent s'exprimer ces voix-là, ces singularités, à condition de prendre le risque ou d'avoir le courage de faire entendre des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs ? Et c'est ce que vous faites parfois aussi dans la marge de l'histoire, en sélectionnant des archives qu'on entend moins que d'autres. On va en écouter une, ensemble, une que vous avez donnée à entendre en janvier dernier. C'est l'archive qui se situe avant celle qu'on entend souvent le discours de De Gaulle sur Paris, Paris, outragé, etc. Et bien juste avant se trouve le discours de Bidault, qui avait remplacé Jean Moulin à la présidence du Comité National de Résistance, et qui, lorsqu'il prend la parole à l'Hôtel de Ville, et bien parle au milieu des tirs de snipers qu'on entend dans cette archive.
Le 25 encore, place de l'Hôtel de Ville, fréquemment interrompu par les coups de fusil, Georges Bidault s'adresse au peuple de Paris.
50 mois de honte et d'oppression sous le régime de la capitulation, de l'imposture et de la trahison sont aujourd'hui effacés et vengés. La France se retrouve plus grande au travers de l'épreuve. Elle connaît aujourd'hui ceux de ses fils sur lesquels elle peut compter, qui sont le nombre, qui sont l'élite, qui sont la nation.
Incroyable d'entendre ces tirs si proches de nous. Pour le
avec la réflexion du technicien, attends, garde-toi, fais attention.
Là, c'est une autre histoire.
Dit-il aux journalistes. Parce que la libération de Paris, elle a été préparée par la radio en amont. Je reviens à Jean Marin, la préparation et l'imprévisible. Et pendant des mois, Pierre Schaeffer, ses amis avaient stocké des disques de cire. Ils avaient prévu la programmation musicale et puis en même temps, ils se projetaient à l'extérieur. La possibilité de l'extérieur était ouverte et on en tirait le plus grand profit. Et voici qu'il y a des snipers là, sur la place de l'Hôtel de Ville, pendant que le président du CNR fait sa première intervention. Mais cette archive, elle est intéressante aussi parce qu'elle a été dissimulée après. Comme vous le dites, Tédéum à Notre-Dame, Michel Droit fait le commentaire, Sniper aussi, Michel Droit raconte que le général de Gaulle avance, droit comme un nid, il n'est pas question qu'il se baisse, jamais le général de Gaulle ne se baisse sous les tirs, ni à Notre-Dame en 44, ni au petit Clamart pendant qu'il est président de la République. En revanche, le héros Bido, plus personne n'en parle, et plus jamais cette archive n'est diffusée. On l'a retrouvée par hasard, dans une émission non répertoriée de l'INA, à la date du 1er janvier 1950, le réalisateur en est Jacques Vierne, le même qui a réalisé la grande série de France Culture de 1988 sur 1968, là, une série que Philippe Garbi utilise beaucoup dans ses archives pendant la période où nous sommes. Le 1er janvier 1950, Georges Bidault est président du Conseil. Donc Jean-Jacques Vierne et les gens du poste parisien, il est normal qu'il diffuse ce qu'il est advenu au président du Conseil 6 ans plus tard, 1958. Georges Bidault est partisan de l'Algérie française. Georges Bidault s'exile, fonde un autre CNR un peu pathétique, un CNR OAS, Algérie française, et sa trace est comme effacée par l'histoire. Ça revient au thème qu'on évoquait tout à l'heure, le bonheur qu'on a de retrouver l'archive oubliée.
Mais voyez, ça veut dire que si le son a un tel impact sur notre pensée, eh bien peut-être est-ce en faisant entendre d'autres sons que l'on peut changer aussi la manière de parler, la manière de penser. C'est prendre conscience de cette influence, de ce pouvoir-là qu'a le son via la radio sur nous-mêmes.
1943, le général de Gaulle est à Ajaccio parce que la Corse a été libérée dès l'automne 1943. J'ai essayé, au moment de la visite d'Emmanuel Macron et de la cérémonie en l'honneur du préfet Erignac, de diffuser ce discours qui est conservé du général de Gaulle qui débarque à Ajaccio bien avant la fin de la guerre et qui dit, après Saint-Pierre et Miquelon, c'est le premier territoire libéré. Eh ben, ce discours, il est quasi inutilisable, il faut le restaurer de fond en comble. Personne n'a jamais pensé à le restaurer. Et c'est quand même passionnant d'entendre ce moment-là. De même, ça on l'a fait, mais ce sont les privés qui l'ont fait. L'INA ensuite l'a récupéré. On a repris sur les disques de cire de Radio Vichy l'enregistrement de tous les déplacements du maréchal Pétain. Alors il y a ce qui a été diffusé et il y a ce qui n'a pas été diffusé. Parce que le maréchal Pétain était parfois faible d'esprit, l'âge le touchait ou bien il tenait des propos politiques. Il engueulait un pasteur protestant parce qu'un vent mauvais soufflait sur la France et que l'Église réformée en était passablement responsable, selon lui. On diffusait pas ça sur l'antenne de Radio Vichy. Quand on l'entend dans son entièreté, ce son est extraordinaire. De même que les photos censurées par le régime de Vichy, on en a un album, on en a un inventaire, en disent beaucoup. La maréchale Pétain ne pouvait pas apparaître sur une photo. Elle n'apparaît que dans les rebuts, dans les restes qui ont été écartés. Quelle révélation quand on apprend ça.
Mais ça veut dire faire entendre les archives du passé, faire entendre ce qu'il se passe en faisant des émissions en public, en donnant la parole à ce public justement sans savoir ce qui va se passer. Ça veut dire qu'en fait, si on identifie la radio au son, à une certaine proposition de son, il faut la décoller de l'actualité. C'est ça que ça veut dire aussi.
Il y a ce qui est actuel, l'actualité, et il y a ce qui est présent.
Quelle différence ?
Il y a ce qui appartient aux nouveautés, et il y a ce qui est neuf. L'actualité, ben, je sais pas, c'est la capsule chinoise qui, incontrôlée, va à 60 000 km/h s'abîmer dans le Pacifique. L'actuel, le présent, c'est la montée en puissance de la Chine dans l'industrie spatiale. Voilà une différence qu'on peut faire. Et comme dit la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, que je cite, comme vous avez cité Laurence Bloch à Inter, la question c'est celle de l'explicitation des grands enjeux, à distinguer de ce qui n'aura pas de durée et qui encombre l'espace. On parlait des archives du futur. Est-ce que toutes les chroniques qu'on écrit, tous les propos d'humoristes qu'on multiplie, toutes les émissions facétieuses qu'on entasse, est-ce qu'on pourra les diffuser demain sans contextualisation ? Ou bien est-ce qu'elles seront aussi incompréhensibles aux auditeurs de 2030 ou de 2040 que ne le sont les chansonniers Anne-Marie Carrère, Robert Rocca ou Maurice Orgue des années 1950 ou des années 1960 ?
C'est ça le problème avec les émissions fantaisistes, comme vous les appelez?
Non, mais c'est pas seulement les émissions fantaisistes. Mais je veux dire qu'on a quand même pour responsabilité aussi de faire des émissions pédagogiques et de faire des émissions à destination des auditeurs dont on ne soupçonne pas l'attente. Moi, je crois que c'est ça, la véritable question. Il ne s'agit pas de se fonder sur les usages qu'on repère aujourd'hui, mais de répondre à des attentes qu'on ne perçoit pas nécessairement. Mmh. Alors, je prends un dossier d'actualité. On nous explique maintenant, nos chefs et maîtres, passés et futurs, on est dans un interrègne, mais enfin, on peut supposer que nos chefs et maîtres futurs tiendront le même langage que nos chefs et maîtres d'il y a peu d'années, qu'il n'y a plus de radio, qu'il y a une sorte de média global. Le média global, bon, c'est très bien, c'est une convergence de l'image fixe, de l'image animée, du texte et du son. Bon, à la réflexion, c'est pas une convergence, c'est pas un élargissement. Quand on observe les choses, c'est plutôt une compression. Et la production de vidéos mobiles est mise en avant. Elle est considérée comme modèle. Vous savez, la vidéo mobile, c'est un petit grumeau numérique qu'on jette dans la soupe, ou bien une petite capsule baguée qu'on jette dans l'espace et qui va retomber aussi vite que l'objet chinois que je signalais tout à l'heure. Mais on dit ça parce que ce serait les usages des jeunes d'aujourd'hui que de procéder ainsi dans leur écoute, dans leur désir d'information ou de divertissement. Est-ce que les jeunes, quand ils seront moins jeunes, se comporteront comme ils se comportent aujourd'hui à ce train-là, en 1981, quand il y avait énergie, Skyrock...
Qui sont toujours là, hein.
Qui sont toujours là, oui, mais France Inter et France Culture sont toujours là. Mmh. Il aurait fallu pulvériser France Inter et France Culture et faire comme Skyrock et énergie, parce que les adolescents de 1981 écoutaient par priorité cela. Leurs habitudes ont dû changer, ils nous sont venus. Peut-être si on prépare des objets inattendus, les jeunes d'aujourd'hui nous rejoindront-ils demain?
En tout cas, vous avez découvert un talent, puisque c'est un terme à la mode également, qui est diffusé aujourd'hui sur Énergie. Peut-être ne saviez-vous pas à ce moment-là de qui il s'agissait. Vous présentiez Travaux publics, on était en 2004. Et puis vous étiez au Café culturel de Saint-Denis la veille du transfert du cœur de Louis XVII. Alors vous avez convié les dirigeants de la nouvelle action royaliste et vous avez demandé à un Fabien, qui se trouvait là, de faire un slam, parce que c'était un slameur, en l'honneur du dauphin mort. Eh bien écoutez ce slam et sachez que depuis, ce Fabien est devenu...
Grand corps malade.
On m'a dit sanitaire de contraste et j'ai pu le vérifier. Quand tu viens ici, à ta première impression, faut pas forcément te fier. Une ville qui désoriente, une ville riche, une ville complexe. Et dans ces quelques vers, je m'en vais te présenter le contexte. Demain débarque en grande pompe une multitude de reines et de rois. À 30 mètres, Madame Diarra et ses 6 enfants prendront le bus 153. Et pendant que les grandes de ce monde rivaliseront de convenance et de chichi, dans le bar d'en face, Mehdi achètera des feuilles pour rouler son toshi. Le choc des mondes est permanent et finalement c'est peut-être ça qu'on aime. Dans la basilique, les gisants se reposent en écoutant du NTM. Et demain, s'ils le veulent, le prince d'Espagne et le roi de Belgique iront se faire une partie de bonto dans la rue de la République. On m'a dit sanitaire d'événements et celui-là risque de pas être triste. Après les sportifs, les musiciens, voilà qu'on accueille les monarchistes. Sur la ville rouge, la fleur de lys va flotter, son drapeau sera pas en berne. Et pour couronner le tout, on aura peut-être même la visite de Stéphane Bern. Tout ce beau monde va se réunir pour une grande cérémonie, en l'honneur de Louis XVII, ce roi qui est mort quand il était petit. Cette scène étrange et saugrenue se déroulera dans la basilique, autour du cœur de ce petit roi mort dans des circonstances tragiques. Pour beaucoup de gens, cet événement résidera dans la seule préoccupation que toutes les rues autour de la basilique seront fermées à la circulation. Mais pour les curieux, ce sera peut-être drôle de regarder les têtes de toute cette jet-set couronnée qui vient vraiment d'une autre planète. On m'a dit Saint-Denis, terre d'accueil et terre de tolérance, où plusieurs vagues d'immigration vivent à côté des tombeaux des rois de France. Ici, il y a un beau mélange et je côtoie des gens de différentes cultures, mais je comprends rien aux monarchistes, alors ce soir j'écoute France Culture. Je vais essayer d'être tolérant et de pas me moquer des royalistes, mais avouez que demain la scène risque d'être un peu surréaliste. Mais nous sommes une terre d'accueil, un bon gros melting pot, alors je souhaite la bienvenue à Louis XVII et tous ses potes.
Bienvenue à Louis XVII et tous ses potes.
C'est la plus belle émission, peut-être, enfin, dans mon souvenir. Parce que, comme me disait une auditrice, j'aime bien ce que vous faites, ou plutôt, j'aime bien ce que vous dites que vous faites. Pour moi, cette émission, c'était la rose des vents. C'est-à-dire qu'il y avait cet événement, et Saint-Denis, c'est une rencontre exceptionnelle. C'est un point tellurique de la France. La suite de l'émission a été très intéressante, parce que j'avais amené des royalistes à l'ordre de gauche, Bertrand Renouvin, Luc de Goustine, etc., qui ne ressemblaient pas du tout aux royalistes que s'imaginait Grand Corps Malade. Et puis, à côté de la sous-préfecture, il y avait une manifestation de sans-papiers menée par des trotskistes, qui sont venus et qui annonçaient l'international. Sauf que les royalistes de la Nouvelle Action Royaliste connaissaient beaucoup mieux l'international que les trotskistes, et infiniment mieux que Grand Corps Malade. Et il y a eu quelque chose de l'ordre de la percussion dans cette émission, quelque chose de symphonique, où personne, je reviens au thème de mai 68, ne voulait la mort de l'autre, et où chacun était un peu transformé par l'étonnement qu'a provoqué l'autre par son comportement.
Merci Jean Lebrun d'être venu nous parler de ce que vous faites, puisque vous le faites si bien. On parlait de l'émission La Trabe au Public, c'était le 7 juin 2004. Merci pour cette promenade politique et historique de la radio. Les auditeurs peuvent vous écouter du lundi au vendredi sur France Inter, La Marche de l'Histoire, à 14h.
À l'heure de la sieste, formidable pour faire la sieste.
Exactement, une belle invitation à la rêverie, comme dit Bachelard. Et puis, ils peuvent vous lire aussi, Journaliste en campagne, c'est le titre de votre livre aux éditions Bleu Autour. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui pour votre journal de la philo, vous prenez de l'avance, oui, de plusieurs mois, et vous nous parlez de football.
Moi je prends 2 mois d'avance puisque la Coupe du Monde de foot commence en Russie le 14 juin, précisément à 17h, avec un match Russie-Arabie Saoudite. Mais déjà sont publiés ou republiés des essais sur le sujet. C'est le cas d'une petite philosophie du ballon de Bernard Chambaz ou des écrits sur le football, le plus beau but était une passe, de Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa qui demande d'ailleurs clairement, y a-t-il une philosophie du football ?
Well now, with just over a minute left, the replay on Tuesday looks absolutely vital. And there's Archimedes, and I think he's had an idea. Eureka ! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, there he is. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going
mad. Vous avez reconnu ou pas?
Mais j'écoutais Jean Lebrun qui parlait pendant les archives, évidemment.
Bravo.
Bonne histoire.
Et moi, je ne sais reconnaître aucune voix. Je l'ai prouvé déjà plus d'une fois dans cette émission.
Bon, alors, c'était un extrait des Monty Python, d'un sketch des Monty Python qui met en scène des philosophes. Alors, juste avant ça, j'aimerais dire quand même que sur certains sujets, pour les philosophes, ça suppose toujours pour eux de prendre un ensemble de précautions avant d'en parler, par exemple la mode ou la cuisine, et donc le foot. Et je me suis demandé pourquoi donc cette justification permanente des philosophes pour en parler. Alors, c'est vrai qu'avec ce sketch des Monty Python qu'il faut regarder, où on voit face à face sur un terrain de foot des philosophes allemands et des philosophes grecs, c'est plutôt l'étrangeté des rapports entre pur esprit et corps en action qui apparaît. Mais pourtant, le football n'est pas le sport le plus étranger aux idées. Pasolini, Giraudoux, Althusser ou encore Orwell en étaient fans et on pourrait plutôt voir dans le football l'alliance de l'esprit et du corps. C'est ainsi, contre l'idée que le foot aurait toujours été naturellement bête, que Jean-Claude Michéa souligne la dénaturation intellectuelle qu'il aurait subie, causée par le désintérêt des élites et la logique capitaliste. Et de son côté, avec sa petite philosophie du ballon, Bernard Chambaz veut révéler lui toutes les facettes pensantes du jeu, la propulsion du ballon grâce à Deleuze, l'exercice de son libre arbitre en équipe grâce à Descartes, ou encore ce je ne sais quoi du foot qui nous pousse à le regarder avec passion grâce à Jean Kelevitch.
Le football était une composante essentielle de ce qu'un sociologue, un grand sociologue, Norbert Elias, a appelé le processus de civilisation, le refoulement de la violence, le contrôle des affects, la mise en forme de l'énergie physique. Là, nous le voyons depuis un certain temps, un processus de décivilisation est à l'œuvre et le football, le sport, est l'un de ces théâtres, comme aussi l'école.
Bon, cette fois, j'ai reconnu, c'est pas Jean Kelevitch.
Non, c'est pas Jean Kelevitch. Alors, en fait, on pourrait dire, je vais vous dire tout de suite de qui il s'agissait, mais avant ça, on pourrait dire qu'il y a trois manières de prendre la parole sur le football pour les penseurs. Alors, la première, c'est celle dont j'ai parlé à l'instant, qui consiste à avoir dans le football son potentiel intellectuel et la réalisation en acte sur un terrain d'un certain nombre de questions et de concepts. Et la deuxième manière, c'est celle que l'on vient d'entendre. Elle consiste à voir dans le football le reflet de notre société. C'est le cas d'Alain Finkielkraut, qui était atterré en 2010 par le comportement des joueurs lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alain Finkielkraut qui reprenait, on l'a entendu, les propos du sociologue Norbert Elias dans Sport et Civilisation et son idée d'autodiscipline, de pacification des mœurs et de domestication de la violence par le sport. Mais voilà, ces deux manières qui consistent à intellectualiser le foot ou à s'en servir comme d'une illustration d'idées que l'on a a priori, comme si le ballon rond avait perdu la tête ou comme s'il fallait à tout prix qu'il en ait une, pour qu'enfin on puisse se déculpabiliser de le regarder, touche seulement du doigt toute la matière, non pas à penser mais déjà pensante, à l'œuvre dans un match.
Racing 1, Monaco 0. Évidemment, les Monégasques sont un peu déçus.
Cependant, les caméramens des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel 1957. Et les malheurs du goal du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère.
Dis-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme.
Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris.
Cette troisième manière de parler foot, c'est celle de Camus. Pour lui, le foot, c'était une université et comme il le dit, le peu qu'il a appris de la morale, c'est là. C'est fou d'ailleurs, connaissant leur rapport tourmenté, qu'on ait à citer aux côtés de Camus et Sartre et Merleau-Ponty. Je ne sais pas si ces deux derniers avaient pratiqué le foot comme Camus, mais on ne peut pas passer à côté de ce qu'ils en disaient. Dans La structure du comportement, paru en 68, Merleau-Ponty ne pouvait mieux expliquer le rapport du corps et de la conscience à l'environnement qu'en prenant l'exemple d'un joueur de foot qui ne considère jamais le terrain comme un objet, mais comme un milieu. Et de la même manière, en 1960, dans sa critique de la raison dialectique, Sartre ne pouvait pas mieux expliquer la manière dont s'organise un groupe qu'en prenant une équipe de foot. La différence est là, ne pas vouloir légitimer ou plus le foot grâce à des idées, mais légitimer ses idées en partant de ce sport seul.
Merci Géraldine. Alors avant d'allumer la télé pour la Coupe du Monde, vous nous conseillez de lire quelques ouvrages.
Bernard Chambas, Petite philosophie du ballon, qui est paru chez Flammarion, et Jean-Claude Michat, Le plus beau but était une passe, écrit sur le football, c'est une nouvelle édition aux éditions Climat.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Jean-Frédéric qui était à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le son. Justement, demain, je recevrai Christophe Chassol qui viendra vous parler de l'ultrascore qu'il a inventé ainsi que des rapports entre son et musique. Ça, ce sera à 10h. Mais d'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez réécouter l'émission et aussi nous laisser vos commentaires et remarques. Voilà, on se donne rendez-vous donc à demain à 10h sur France Culture. Mais d'ici là, eh bien à 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde.